SVM Mac, Mac & Co, iCreate, Compétences Mac, autant de magazines que vous avez sans doute déjà aperçus dans les rayons de votre marchand de journaux ou que vous achetez peut-être encore religieusement chaque mois. La presse Mac en France a toute une histoire avec des titres ayant traversé le temps là où d'autres ont disparu après quelques années. Les magazines d'informatique ont connu un certain âge d'or à la fin des années 90, bien avant qu'Internet ne vienne rebattre les cartes de par son aspect plus instantané et accessible. Travailler sur Apple à cette époque était quelque chose de bien différent d'aujourd'hui. Les sources d'informations n'étaient pas les mêmes, les relations avec Apple non plus. Comment le domaine a-t-il évolué du premier numéro de SVM Mac au dernier d'iCreate ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux vétérans du secteur. J'ai à mes côtés Florian Innocent, qui est passé par de nombreux magazines spécialisés Apple avant d'arriver chez MacG. Salut Florian.
Bonjour.
Et je suis également avec Alexandre Lenoir, qui a lui aussi fait une bonne partie de sa carrière dans la presse Mac et qui travaille encore aujourd'hui sur le mensuel iCreate. Salut Alexandre.
Merci pour le vétéran, salut.
Oui, mais faut assumer.
Alors, on va remonter à la fin des années 90, au début des années 2000, puisqu'il me semble que c'est à cette époque-là que vous avez tous deux débuté dans le milieu. Pour commencer, une question simple, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans le domaine de la presse spécialisée sur Apple, Alexandre ?
Alors moi, c'est le Mac en lui-même, quelque part. En fait, j'ai eu la chance, au milieu des années 80, de pouvoir le tout premier Mac. Je me souviens, mon père l'avait fait venir des États-Unis à l'époque. Il était question d'acheter un ordinateur pour la maison et on se dirigeait, comme beaucoup de gens, vers le Commodore 64. Et puis, le Mac est sorti et personne n'a un petit peu bien renseigné sur l'informatique de l'époque. On a attendu un petit peu, on a fait venir par un de mes oncles qui était étudiant aux États-Unis le tout premier Mac là-bas. Et puis, assez rapidement... En jouant avec le logiciel, je m'amusais à faire des mises en page, écrire des articles, etc. Donc, je dirais que le goût de la presse m'est venu directement avec le Mac. Et ensuite, travailler dans la presse Mac, c'est presque un hasard, puisque à la fin de mes études, je postulais pour différents emplois. Et j'ai postulé pour un emploi chez Presse Images à l'époque, qui n'était pas spécifiquement rattaché à Univers Mac, qui était le magazine de l'époque, mais qui, de fil en aiguille, m'a conduit à la presse Mac. Voilà, pour résumer de façon assez courte.
Ok, ouais. Et toi, Florian ?
Il y a un petit peu un chemin qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on a eu un Mac, mon père s'était équipé pour son bureau, son cabinet d'architecte. Mmh. Et ce n'est pas passé loin qu'on ait un PC. Puis c'est le revendeur qui vendait les deux plateformes qui nous a aiguillé vers un Mac. Alors, c'était beaucoup plus tard qu'Alexandre, c'était un Mac 2 SI. Ouais. Et puis ensuite, c'est Internet. Moi, j'ai commencé, donc là, je parle des années, un peu le début des années 90. Internet est arrivé, je crois, vers 95. Et c'est à ce moment-là, pour faire court, je me suis retrouvé à travailler chez un fournisseur d'accès à Paris qui s'appelait Calvacom, qui était dirigé par un ancien directeur, l'ancien directeur marketing d'Apple France, ouais. François Benveniste. Et on faisait des sites web, il y avait un forum, il y avait un BBS, enfin, il y avait plein de choses comme ça. J'y suis resté que 6 mois, mais j'avais, disons, un ordinateur, j'avais un accès Internet toute la journée, ce qui était quand même encore assez rare à l'époque. Et il y avait à ce moment-là des sites américains qui ont pris de l'avance sur les autres, qui ont commencé un petit peu à apparaître, des sites web qui étaient très sommaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ou alors des sites web de magazines papier américain, de magazine Mac, qui a très tôt, beaucoup plus tôt qu'en France, ont pris le pli d'aller sur Internet. Donc je faisais un blog qui avait une sorte de revue de presse un peu humoristique de l'actualité Apple, que je pouvais aller chercher parce que j'avais cet accès Internet quotidien. Et donc je faisais une sorte de synthèse avec 2-3 trucs rigolos. Et ça avait été vu par quelqu'un chez SVM Mac, qui était un des deux gros magazines à l'époque avec Univers Mac. Un de leurs journalistes partait, m'ont fait faire des piges, et puis assez rapidement, ils m'ont proposé un boulot. Donc je suis resté 6 mois chez ce fournisseur d'accès. Et je suis parti travailler chez SVM Mac, ça s'est fait. Donc, et puis c'est une époque, Alexandre dira peut-être la même chose, mais où on pouvait entrer dans la presse papier informatique sans être journaliste, où il suffisait à la limite d'être assez passionné, de savoir quand même un peu écrire, de savoir un peu aligner les phrases. Mais on pouvait comme ça entrer assez facilement dans la presse informatique.
Ok, ouais. Alexandre, toi, tu as une formation de journaliste ?
Alors moi, oui, j'ai fait mes études à l'Institut français de presse, donc j'ai une formation de journaliste, mais ce que dit Florian est assez vrai, puisque quand je me suis occupé de différents titres chez Presse Images, qui est ensuite devenu XO Publishing, je m'occupais notamment de la publication de pas mal de hors-séries. Et bah, je cherchais mes pigistes justement, notamment sur les newsgroups, ce genre de choses, les forums un petit peu spécialisés en fonction des thématiques. J'essaie de dénicher des gens qui connaissent, qui savaient de quoi ils parlaient et qui écrivaient bien. Et c'était pas très très difficile en fait à l'époque de trouver ce genre de profil. Et puis voilà, de les recruter en pige. Et certains sont devenus journalistes, certains ont fondé leurs médias. Donc voilà, ce que dit Florian, effectivement, c'est juste, on n'était pas forcément journaliste de formation à l'époque quand on entrait dans la presse, en tout cas la presse informatique. Ouais.
Non, puis moi j'étais déjà sorti d'un BTS de technico-commercial, donc rien à voir. Et c'était même pareil, le chef fournisseur d'accès où on travaillait, donc on faisait des sites web à la main. Un de mes collègues qui aujourd'hui bosse chez Apple était astronome de formation, et il y en avait un autre qui sortait qui avait fait du droit.
Ah oui, ok.
Donc voilà, tout était possible.
Ouais. Et à l'époque, c'était quoi les gros magazines du coup? Florian, toi, t'as bossé pour quelle publication?
Alors, je ne me rappelais pas qu'Univers Mac était déjà là, mais donc il y avait Univers Mac dont parlait Alexandre. J'ai tendance à dire que SVM Mac était le premier, celui où j'ai travaillé était le premier. Alors, je suis arrivé bien après son lancement, mais était le premier à s'être lancé en France. C'est un magazine qui avait aussi un gros, gros contenu orienté PAO création. Parce qu'à l'époque, bah, quand on parlait Mac, alors chez Apple, il y avait que le Mac déjà, le Mac, des imprimantes, des scanners, des écrans. Donc ça tournait tout autour de ça et du domaine de la PAO. Donc on avait un magazine qui était généraliste, mais aussi avec une grosse dimension PAO. Et je crois qu'il y avait peut-être, c'est un peu loin, mais il y avait peut-être un autre titre qui devait être pris d'une licence américaine. Il y avait Golden, peut-être.
Alors, il y avait effectivement Golden. SVM Mac, tu as raison, était sans doute le premier, puisqu'il est de mémoire sorti dans les années 86-87. J'ai plus
Ouais, très tôt.
la date exacte en tête, mais on doit être dans ces années-là. Il y avait Golden, il y avait pas mal de petits titres, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, qui naissaient, qui disparaissaient. Macworld aussi est arrivé évidemment en licence américaine. Puis oui, il y en avait certainement d'autres dont les noms m'échappent aujourd'hui, ouais.
Ok. Et toi, t'as bossé du coup pour quel.
Alors moi,
C'était
c'était
quoi ton
SVM
parcours?
Mac
Ok.
qui était le leader. Et puis après, on se tirait la bourre avec Univers Mac. On avait deux rédacteurs en chef très différents. Il y avait Andreas Pfeiffer d'un côté. Je crois que c'était Bernard Leduc qui était déjà là à l'époque, je ne
Tout
veux pas
à
dire de
fait, ouais.
bêtises, qui était un autre style de personne, de type d'écriture, de personnalité. Donc il y avait deux profils très différents des deux magazines.
Et toi, Alexandre, t'étais où à l'époque? Parce que si j'ai bien compris, t'as toujours travaillé dans le papier, jamais pour le web?
Alors, si, puisque je travaille aujourd'hui pour le web, mais pas pour la presse Mac en l'occurrence. Mais moi, je suis rentré chez Presse Images, donc qui éditait Univers Mac, mais aussi pas mal d'autres magazines spécialisés dans les jeux vidéo, l'informatique, les nouvelles technologies, etc. Je suis rentré tout début 1995 et pendant une petite dizaine d'années, j'ai travaillé pour ce groupe. Qui ensuite a changé de nom, est devenu XO Publishing, puis a disparu en étant vendu à la découpe. Donc voilà, c'est mes premiers pas dans la presse, on va dire informatique, Mac et nouvelles technologies remontent à cette époque-là. Mais le web, si, j'en fais aujourd'hui, mais effectivement, pas pour le Mac, puisque iCreate a un site, mais qui est simplement un site marchand. Alors, on vend des abonnements et des numéros, soit en version numérique, soit en VPC.
D'accord, ouais. Toi, Florian, à l'époque, on te connaissait aussi pour ton blog qui s'appelait également Kernel Panique. C'était quoi le concept?
Alors le concept, bah, c'était tout bête, c'était donc j'avais un accès internet, je lisais un peu les sites américains, et puis donc je faisais un peu une sorte de résumé, parce qu'il y avait des gens qui s'intéressaient beaucoup à Apple, au Mac, mais alors, ils avaient forcément un accès internet puisqu'ils venaient lire le site, mais ils n'avaient pas forcément chez eux, ou tout le temps, ou le temps, ou ils ne savaient pas lire l'anglais,
Ouais.
etc. Donc c'était une sorte voilà, de revue de presse un peu assez régulière de ce qui se disait sur le monde Apple. Je l'avais appelé Copland au début, parce que c'était le nom de code de ce qui devait être macOS Suite, donc juste le prédécesseur de macOS 10. Et puis le projet Copland s'est cassé la gueule, donc il a fallu trouver un autre nom, Rapidos, je n'ai pas trop anticipé. Et donc c'était voilà, c'était juste une sorte de revue de presse sur un ton un petit peu humoristique. Et puis je faisais ça tranquillement. Et il y avait un petit lectorat qui était assez fidèle. On n'était pas non plus des millions à l'époque, donc c'était assez facile de se faire remarquer.
Ok, ouais. Et toi, Alexandre, t'as tenu quelque chose de similaire pour te démarquer, peut-être?
Non, en fait, pas du tout. Avec Florian et d'autres, on s'est simplement rencontrés par le biais de forums de discussion, de newsgroup. Il y avait un newsgroup sur Usenet qui s'appelait FR.com6Mac, qui était un petit peu le point de ralliement de tous les aficionados du Mac de l'époque. Et donc c'est comme ça que, entre guillemets, on se faisait remarquer, qu'éventuellement on s'amusait à faire un petit peu la promo de nos publications respectives. Mais non, j'ai pas tenu de blog ou de site spécifiquement lié au Mac. J'ai eu des petits sites perso, des choses comme ça. Mais
Oui, c'est l'époque des
c'est
blogs
pas
en
quelque
plus.
chose pour lequel j'avais beaucoup de temps à consacrer. Donc voilà, j'ai pas persévéré dans cet effort-là.
Oui, puis je me souviens qu'on était dans un groupe où là, il y en a, j'en ai un ou deux en tête de nom qui aujourd'hui travaillent chez Apple
Oui, tout
à
à fait.
Cupertino, à des postes plutôt intéressants. Donc, je n'ai plus de contact avec eux, mais voilà, chacun a suivi un peu des chemins différents tout en restant dans le domaine.
Et donc, c'est quoi la différence entre bosser pour un magazine papier et bosser pour le web? Florian, toi qui as pu faire les deux, parce que j'imagine qu'on s'organise pas du tout pareil au niveau du rendu, tout ça.
Ben alors, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'Alexandre qui me mette à jour un petit peu sur comment ça se passe aujourd'hui. Quelque part, c'est identique, mais c'est très différent sur le rythme. Le rythme, c'est la notion de temps qui est très différente. Moi, quand j'étais dans un mensuel, donc c'est un temps qui est un peu plus long. Et quand je suis arrivé chez MacG, c'était en 2007, j'ai pris un petit peu un bon coup de bambou sur la tête parce que c'était pas du tout le même rythme. C'est-à-dire que dans un magazine papier, il y a toujours une sorte de cycle où, au début en gros, pour résumer, au début du mois, vous commencez à préparer le numéro suivant. Vous commencez à préparer le sommaire, recevoir les papiers, et puis ça accélère, ça monte, au fur et à mesure que vous approchez du bouclage. Et là, il y avait un gros moment de... voilà, on souffle, le magazine est bloqué, est bouclé, on souffle, on s'arrête. L'époque avant que j'arrive, je crois que même des fois, les journalistes disparaissaient pendant 2, 3 jours, et puis après, ils revenaient travailler. Et donc voilà, il y avait ce côté un peu, on va doucement, puis ça accélère. Sur un site... C'est tout le temps, en fait. Il n'y a pas de notion de... Il y a presque pas de notion de week-end, j'exagère un peu, mais le samedi, il y a un peu moins d'actu, mais par exemple, dans notre domaine à nous, on sait que Bloomberg, tous les dimanches, il publie sa newsletter, où parfois, il met deux, trois petites infos qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est tout le temps, un peu à toutes les heures de la journée. Dans la même journée, il peut y avoir pas un fait qui... Il va y avoir Bruxelles qui dit quelque chose, Apple, 2 heures après, réagit, donc vous mettez à jour l'article. Et puis chacun sur Twitter, il va de ses réactions, etc. Donc c'est constant, et c'est ça qui est peut-être plus difficile, c'est que on n'arrête pas, quoi. On est constamment un peu dans un flux avec... Et puis un coup c'est Apple, un coup c'est un autre, un coup c'est Microsoft, un coup c'est Google, donc c'est constant. On est sous une sorte de feu nourri de sujets d'actualité un petit peu tout le temps.
Et au niveau du papier, Alexandre, j'imagine que c'est peut-être un peu moins.
Alors, nous, effectivement, on est beaucoup moins dépendant de la hot news, comme on dit, c'est-à-dire que l'actu, on va la traiter de façon, on dit, un petit peu plus mûre, c'est-à-dire qu'elle sera mature quand on va la traiter. On est un mensuel, donc on ne va pas s'amuser à mettre un breaking news sur un truc qui est arrivé la veille du bouclage. On peut en parler, évidemment, en une brève, mais en général, on essaye de faire plutôt une espèce de petit récapitulatif d'une actualité importante qui s'est déroulée dans le mois, avec les tenants, les aboutissants de celle-ci. Donc, je pense que c'est surtout en ça que c'est différent. Donc, on est évidemment moins pressé par le temps et les réactions des uns et des autres à une actu. On les suit, évidemment. On essaye aussi de faire le tri dans tout ce qui est rumeur, etc. Parce que, alors, il y a une époque, il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, il y en a un peu moins parce que finalement, tout le monde publie à peu près les mêmes. Donc, on essaye de faire un petit peu le tri là-dedans, de peser la crédibilité de chacune. Et puis, on en retient une, deux ou trois et on fait un petit papier dessus avec ce que nous, on a pu trouver, si on a éventuellement des sources différentes ou pas. Et voilà, mais effectivement, on est moins dans l'instantanéité. En revanche, on est plus sur des sujets utilisateurs, c'est-à-dire des dossiers pratiques, des tutoriels, des tests produits, etc. Ça fait plus partie de notre quotidien. Voilà.
Il y a un autre point aussi qui est tout aussi important sur la manière dont ça change. Alors là, c'est peut-être aussi un peu propre à notre manière de fonctionner chez MacG, c'est Une seule personne aujourd'hui chez MacG fait à peu près le boulot de 6 personnes, moi, quand j'étais dans un magazine papier comme SVMac. C'est-à-dire que SVMac, le cœur de la rédaction, je ne parle pas des pigistes, on était à peu près le même nombre de personnes que chez MacG, on va dire 7-8 personnes, etc. Mais là-bas, tout était segmenté entre plusieurs postes. J'écrivais mon article, il était relu par le chef de rubrique, il était relu par la secrétaire de rédaction qui s'occupe de remettre en forme quand on a les phrases, des corrections, de trouver des tournures un petit peu plus élégantes, etc. À la fin, il est lu par le rédacteur en chef. Il était mis en page par le maquettiste. Si on avait de l'argent, on avait un photographe et une iconographe qui, elle, s'occupait de tout l'aspect graphique, de commander des images à des dessins des illustrateurs, de commander les photos au photographe, de discuter avec lui. Donc là, j'en suis à peu près à 7 personnes. Et il faudrait compter un peu les personnes qui s'occupent de l'impression. Aujourd'hui, chez MacG, je et mes camarades, chacun, on fait le boulot de 7 personnes, finalement. Parce que chacun écrit son article, il le relit lui-même. On relit de temps en temps les articles des autres quand on fait des très longs articles, des tests ou des choses comme ça, histoire d'avoir un deuxième avis. On choisit nous-mêmes nos images. Parfois, on les fait nous-mêmes quand on a besoin de faire un montage. On publie, donc quelque part, on imprime. Donc finalement, on est un peu un chef orchestre. Et ça s'ajoute à ce côté où on a de l'actualité tout le temps et en plus, on s'occupe tout seul de tout gérer. Alors, chez iCreate, je crois que vous avez une équipe c'est un pack assez réduit, mais je pense que ça a peut-être évolué aussi un peu dans ce sens. Il y a des rédactions qui sont peut-être plus larges, avec beaucoup plus de monde, mais je suppose que c'est de moins en moins le cas parce que la presse papier, c'est quand même difficile. Mais voilà. Le passage du papier au web a fait qu'on se retrouve à faire 5 ou 6 métiers qui avant étaient répartis. Et puis avant, il y avait chacun l'iconographe ou le photographe, il ne fallait pas les toucher sur son domaine, c'était vraiment des domaines réservés. Chacun était un peu à sa place, on discutait, mais voilà, chacun devait rester à sa place. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça.
Alors effectivement, on garde le côté un petit peu segmenté dans la presse papier, c'est-à-dire que moi, en tant que responsable éditorial, je vais quand même, à la fin du processus, relire tous les bons à tirer, même si le SR est passé avant et sur le texte et sur la maquette, parce que personne n'est infaillible et il y a toujours des coquilles qui restent. Éventuellement, le SR n'est pas forcément aussi pointu qu'un rédacteur sur un point technique ou une chose comme ça, et donc peut laisser passer une erreur qui ne peut pas avoir relevé, par exemple, ça arrive. Il arrive aussi que même on les laisse passer après 3 relectures. Hein, ça, c'est malheureusement assez fréquent.
Faute dans le titre que personne n'a vu.
Ouais.
Là, on l'a eu sur une couverture.
C'est exactement ça. Voilà. Ça arrive de temps en temps. On arrive à en corriger quand même à la volée, mais ça, on en laisse encore passer quelques-unes. Donc effectivement le rédacteur écrit, le SR relie, corrige, puis il y a la mise en page qui est faite et ça, tout ça ce sont des personnes différentes. L'iconographie, alors ça dépend évidemment du type de papier. Si c'est un tuto, les captures d'écran c'est le rédacteur qui les fait. Quand c'est de la news ou du test ou des choses comme ça, soit on recherche des photos, soit on en a, soit on en fait, soit on a celles qui sont fournies dans le cadre de test produit par les services presse, des pack shots, ce qu'on appelle des pack shots avec des photos du produit sur un fond neutre ou alors en situation, qui permettent d'illustrer le papier et qui permettent aussi de gagner du temps, puisque la presse Mac est beaucoup moins riche qu'avant. Et donc, tout le temps qu'on peut gagner sur ce genre de choses, c'est aussi de l'argent qu'on ne dépense pas. Voilà, tout simplement.
Ouais. Et il y avait une chose qui existait avant, qui n'existe plus du tout dans la presse, et c'était un point fort des magazines informatiques, c'était le fameux CD-ROM,
ouais,
qui était livré avec, où on mettait des shareware, on mettait des bandes annonces de films, parce que ça, avec QuickTime, ça a commencé un peu à se développer.
Bien sûr.
On mettait des démos, des choses comme ça. Et chez SVMac, on avait même une sorte de côté éditorial, avec directeur, on faisait une sorte de mise en page, des choses. Enfin voilà, il y avait un vrai contenu. Et ça a été toute une histoire quand on a décidé de le supprimer, parce que ça faisait partie de... C'est comme si on arrachait des pages au magazine, quoi.
C'est ça. On a eu le CD-ROM, nous aussi, jusqu'au numéro 100 à peu près. Il a peut-être été retiré un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, je n'ai plus exactement en tête. Pendant un temps, on a remplacé ce qu'on appelait un plus-produit. Le CD-ROM était un plus-produit. On l'a remplacé par des stickers qui étaient assez sympas, qui étaient collables sur le capot de son MacBook ou sur le dos de son iPhone. Et puis, voilà, au fil du temps, on a retiré tout ça. Ne serait-ce que ça permet de supprimer le blister du magazine, c'est-à-dire l'emballage en kiosque, donc ça permet au magazine d'être consulté. Ça fait également des économies de plastique.
Il y avait ce débat de si on sous blister, on peut pas le feuilleter, donc si on va le coller à l'intérieur, mais si on colle, ça déchire les pages. Enfin voilà,
Voilà, on a
il
fait ça
y a
aussi,
des
mais
considérations.
ouais.
Ouais.
Mais bon, tout ça, voilà, ça fait que ça a été effectivement, on passait du temps effectivement à éditorialiser entre guillemets le CD, à trouver les bons shareware, les il y avait des clip art, il y avait des typos, il y avait plein de choses. Enfin, on passait pas mal de temps à faire ça. Après, pendant un moment, on en a mis en ligne, et puis bah après, tout le monde sait à peu près aujourd'hui où chercher, où télécharger un logiciel, où trouver une image libre de droit, où trouver, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, est complètement passé de mode, et c'est tombé en désuétude. Donc on n'a plus besoin de le faire. Il y avait effectivement des lecteurs à l'époque qui nous ont reproché de l'avoir supprimé, mais c'est un petit peu comme le lecteur de disquette sur les Mac. Les premiers utilisateurs vont se plaindre, et puis ensuite on voit très bien qu'il n'y en a plus besoin, et on se pose même plus la question de savoir pourquoi il n'y en a pas. Voilà.
Voilà, ouais.
Et Alexandre, comment ça fonctionne de nos jours un magazine comme iCreate?
Alors, iCreate, c'est un magazine que d'abord on édite depuis une vingtaine d'années en France. À la base, c'était une licence anglaise. Donc, on achetait des droits de publication d'articles d'une version originale qui était anglaise. Et on avait également le droit de produire notre propre contenu sous cette marque-là. Ce qu'on faisait, donc, on avait un mélange en fonction des mois qui était, on va dire, moitié-moitié. Bon, c'est vraiment à grosse maille parce que parfois c'était du 20-80 dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà. Donc on avait cette base éditoriale qui nous permettait de travailler. Aujourd'hui, iCreate n'existe plus. C'est-à-dire qu'iCreate existe en France et n'existe plus qu'en France. Alors, on est toujours un magazine qui bénéficie d'une licence. Les éditeurs anglais d'iCreate éditent un autre magazine qui s'appelle Macformat. Et c'est aujourd'hui une de nos sources éditoriales. C'est-à-dire qu'on n'a plus iCreate, mais on a Macformat, qui fait grosso modo ce que faisait iCreate. L'éditeur, en fait, a sacrifié un des deux titres sur l'autel de l'économie, j'imagine. Et donc, est resté Macformat. Et c'est le magazine qui nous sert aujourd'hui de base éditoriale. Et puis, il y a évidemment une partie qu'on continue à faire nous, notamment l'actualité, parce que l'actualité, quand elle nous arrive de Macformat, elle a déjà plusieurs semaines. Et donc, nous, on la republie encore, on va dire, une à deux à trois semaines après avoir reçu le contenu de nos amis anglais. Donc, ça n'a pas de sens. Il arrive qu'on en prenne parce qu'il y a des contenus qui n'ont pas de temporalité, qui sont plus des réflexions sur le fond. Donc là, on peut les prendre. Également, c'est le cas de Tribune, de choses comme ça. On se sert pas mal dans leurs tutos parce que ça sert à rien de réinventer la roue. Et on paye pour ça, entre guillemets. Hein, voilà. Idem pour les dossiers. On fait beaucoup de tests par nous-mêmes. Parfois, on en prend chez eux quand il y a du matériel qui nous intéresse et qu'on n'a pas forcément à disponibilité en France. Ça arrive. Donc voilà, on continue à faire un savant mélange entre toutes ces sources. Mais pour le reste, ça reste de la presse comme on en fait par ailleurs, avec un processus éditorial qui est le même que ce soit du magazine en licence ou pas, quoi.
Ok, et pour avoir une idée, vous êtes combien à bosser sur iCreate?
Alors, on n'est pas beaucoup. Il y a donc le rédacteur en chef qui est le plus exactement le directeur de publication, le secrétaire de rédaction. Il y a un graphiste qui intervient également. Il y a moi et des pigistes. Voilà. Donc
Ok.
en équipe fixe, on va dire qu'on est 3,5, 4, quoi. Voilà.
D'accord. J'imagine que les méthodes de travail étaient bien différentes de maintenant à la fin des années 90, étant donné qu'Internet était moins populaire qu'aujourd'hui. Comment vous faisiez pour avoir des informations sur Apple, Florian?
Il y
Alors,
a beaucoup de... Bah vas-y Alex,
Ouais,
vas-y, tiens.
non, parce que en voyant le conducteur, je me suis amusé de cette question parce que je me disais que dans les années, fin des années 90 et début des années 2000 encore, c'est Apple et ses chefs de produits, éventuellement, ses attachés de presse qui se déplaçaient dans la rédaction pour faire les démos des produits.
C'est ce
Aujourd'hui,
que
ça a
j'allais
bien
dire.
changé.
J'allais dire la même chose en
Voilà. Donc,
fait.
ça a bien changé parce qu'aujourd'hui, il y a des suites au keynote à Cupertino ou ailleurs. Il y a ensuite des briefs qui sont organisés dans les antennes locales d'Apple. Donc, typiquement pour Apple France, c'est à Paris. Pendant le Covid, c'était en visioconférence. Puis, on est revenu en présentiel il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois seulement. Donc, ce sont des briefs qui se font. Jusqu'à d'ailleurs, avant le Covid, c'était des chefs de produits ou des responsables marketing qui venaient de Londres pour présenter les produits à Paris. Et maintenant, on a à nouveau des briefs en français à Paris avec des responsables marketing ou produits français. Donc, c'est plutôt agréable. Ça, c'est pour la partie, on va dire, présentation produits pratiques. Pour le reste, le Apple des années 90 et le Apple d'aujourd'hui reste une société secrète, entre guillemets. Donc, si on veut avoir de l'info, ce n'est pas aux attachés de presse qu'il faut le demander. Voilà.
Et puis on avait, il y a, à l'époque, dans les années 90, Apple France était un peu, était une, comment dire, une filiale assez forte. Il y avait des ingénieurs, il y avait
Tout
des
à
équipes
fait.
techniques. Voilà, c'était moins une sorte de, bon, je ne sais pas comment c'est organisé aujourd'hui, mais disons que voilà, c'était une filiale à part entière et on pouvait discuter plus directement avec les personnes, avec les chefs produits de ceci ou de cela. C'est pas pour ça qu'ils allaient vous révéler tous leurs secrets, comme tu dis, mais disons qu'il y avait un contact direct qui aujourd'hui n'existe plus. Alors il faut vraiment connaître très bien la personne, être très intime, si elle est encore là. Et effectivement, Apple se déplaçait. Je me rappelle, dans les derniers temps, on avait le chef produit qui venait présenter les PowerBook G4. Maintenant, Apple ne se déplace plus chez les gens, dans les rédactions, à part peut-être quelques exceptions, mais ce sont les rédactions qui vont chez Apple, ce qui montre un peu le renversement de poids, disons, l'importance qu'a pris la société. Et donc, voilà, il y avait beaucoup plus d'interactions avec eux. Et sur, après, la source d'infos, moi, j'ai commencé en 97. YouTube est arrivé 8 ans après, donc pour situer, ça fait vraiment un moment. Il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui des conférences de presse. On va toujours, Free tenait la sienne il n'y a pas longtemps, on y va, on regarde ce qu'il dit, on discute avec les gens après la conférence. Internet, le web commençait à se développer, donc on pouvait commencer à trouver des infos comme ça, et Apple étant américaine, les sites américains et les magazines américains qui avaient un site avaient une sorte d'avantage pour avoir des infos. Donc c'était une bonne source. Et puis ensuite, on avait parfois peut-être un peu plus de sources directes, comme je disais, vis-à-vis d'Apple. Donc ça n'a pas fondamentalement changé. Il y a eu de nouveaux supports comme avec Twitter. Il y a de nouvelles sources, c'est-à-dire que avant Apple était pas faisait pas fabriquer ses produits en Asie. Jobs est revenu, Cook est arrivé, ils ont emmené cette production là-bas. Donc il y a beaucoup plus d'infos qui viennent de ces endroits-là. Et parfois, on voit arriver des trucs sur des sites en chinois ou autre. Eh ben, c'est compliqué pour interpréter parce qu'on peut pas, soit on peut toujours le placer dans un traducteur, mais on va pas voir les nuances, on va pas voir si le bonhomme fait juste un compte rendu, s'il a vraiment des sources. Donc il y a une variété de sources d'informations qui est parfois beaucoup plus compliquée à gérer. Ça arrive un petit peu dans tous les sens. On a aussi avec Twitter beaucoup plus de développeurs qui s'expriment, il y a beaucoup plus d'opinions qui s'expriment et qui peuvent être intéressantes parce que ça vient de gens qui sont les premiers concernés par des choix techniques d'Apple ou des décisions. Donc, voilà, on a un volume d'informations qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié par rapport à ce que l'on avait avant, en plus des choses assez classiques, des communiqués de presse, des conférences, etc.
Florian, est-ce qu'il y a des aspects de la presse papier qui te manquent? MacG offre forcément un peu plus de flexibilité de par son format, mais j'imagine qu'il y a aussi quelques aspects qui sont moins bien du coup.
La notion de temps, on en a parlé, qui a plus rien à voir. Il y avait des choses qui étaient, ce qui est sympa et qui c'est le cas aujourd'hui avec iCreate, c'est l'objet magazine, l'objet papier. C'est-à-dire que moi, au moment où iCreate s'est lancé, moi je bossais chez Univers Mac, c'était le troisième magazine où j'étais, et on avait une maquette qui était bon. c'était pas voilà, on n'était pas très très content, et à chaque fois on jalousait un peu les couvertures d'iCreate, la mise en page, le look du magazine. C'était un petit peu un crève-cœur parce que on parlait grosso modo des mêmes choses, mais la mise en forme avait rien à voir. SVM Mac, c'était pareil, je disais que c'était un magazine qui était très orienté création. On avait des dessinateurs qui faisaient des pages de BD à l'intérieur. Ceux qui connaissent la BD, si on leur dit Lewis Trondheim, Diego Arenega, voilà, ils vont connaître. C'était vraiment des pointures, et qui sont aujourd'hui devenues des pointures de la BD, et ils faisaient des planches dans SVM Mac. Donc il y avait cet objet-là qui était assez sympa. Et puis après, bon, quand on était juste entre nous, entre magazine papier, bon, bah, il y avait cette concurrence. Quand le web a commencé à... Les sites web ont commencé à apparaître, là, il y avait cette difficulté, ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est qu'on va plus se battre sur l'actualité, parce qu'on fait son magazine, on voit qu'il y a 36 actualités qui sont arrivées depuis, que ça bouge, on sait qu'on ne va pas pouvoir suivre le rythme. Donc il y avait cette frustration de se dire, tiens, ce que je suis en train d'écrire, le temps que ça soit mis en page, imprimé et publié, il y aura eu 3 ou 4 évolutions dans cette actu, et ça sera déjà un peu dépassé. Donc voilà, c'était assez intéressant de réaliser cet objet, puis on se rendait compte après que bah, ça perdait un petit peu de sa fraîcheur. Ce qui est intéressant avec iCreate, c'est d'avoir pris ce parti de tout axer, enfin pas tout axer, mais de pas mal axer sur le pratique, ce que je fais avec mon ordinateur, ce que je fais avec mon iPhone, en plus des tests. Et moi, Alexandre nous l'envoie tous les mois, je feuillette, il y a toujours, je me dis, ah oui, tiens, ça, j'avais oublié. Ah oui, ce petit truc, ah bah cette utilisation. Et voilà, on prend son temps de lire, alors que sur un ordinateur, c'est quand même assez compliqué de rester concentré sur une chose. Un magazine, on le garde entre les mains, on le feuillette, voilà. Ça a ses inconvénients, mais ça reste un plaisir à feuilleter.
Ouais. Alexandre, comment va la presse Mac française en ce moment? Et de manière plus générale, la presse tech papier? Vous avez encore des concurrents bien implantés niveau magazine Mac?
Sur le Mac, je crois qu'il n'y a plus grand-chose en kiosque en dehors de nous. Il y a peut-être quelques trimestriels un peu thématiques. Il y a Vous et votre Mac qui était papier, qui est devenu un hebdo numérique. La presse Mac, je mentirais en disant qu'elle va très très bien. Elle a été beaucoup, beaucoup mieux, ça c'est sûr. On se débrouille, on survit, on essaye de trouver des astuces pour gagner notre vie avec iCreate. Pour l'instant, c'est encore le cas. J'espère que ça durera encore longtemps, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ce qui est clair, c'est que quand un magazine disparaît des kiosques, c'est jamais bon pour ceux qui restent, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on réduit sa visibilité. Quand on retire des membres à une famille, la famille, elle tend à disparaître. C'est en général pas à l'avantage des membres qui restent. Donc, c'est un peu ce qui se produit, j'imagine, dans les kiosques pour la presse informatique. Il y a de moins en moins de titres informatiques aussi, hein, faut être clair. Il y a un peu de presse tech qui mélange le lifestyle, la technologie, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs vers ces supports-là, qu'ils soient papier, internet ou audiovisuel, que se tournent les marques aujourd'hui, et dont Apple, vont privilégier la communication vers ces supports-là plutôt que vers des supports spécialisés, comme peuvent être MacG, pour vous citer, Mac Forever, iCreate ou d'autres encore. Hein. Voilà, on est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on parle, on est spécialisé dans les produits, dans l'univers Apple, et je ne vais pas dire qu'on est les derniers servis, parce que ce n'est pas vrai, mais on n'est pas les mieux servis ou les plus privilégiés. Voilà.
Oui, c'est d'ailleurs, on l'a déjà dit ici, mais si on veut avoir les produits Apple, les nouveaux produits Apple en test avant tout le monde, vaut mieux avoir un site Android qu'un site Apple.
Exactement.
On constate depuis 15 ans. Donc oui, on a de temps en temps des prêts. Enfin, c'est pas systématique. Il y a des grandes périodes de vide, et puis parfois ça s'améliore. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux être de la presse généraliste ou un site de produits qui n'ont rien à voir avec Apple, mais qui parle d'Apple, parce qu'on peut pas éviter. De même que nous, on parle de Google parce qu'on peut pas ignorer Google. Mais il vaut mieux être un site Android pour avoir les produits en avant-première.
Ouais. Alexandre, pour iCreate, comment ça se passe au niveau du web? Tu disais que vous aviez un site qui servait surtout de support d'achat.
Oui, tout à fait. Alors en fait, quand on a lancé iCreate, on avait assez naturellement ouvert découvert le site web du même nom, vraiment au tout début. On essaie de mettre un peu d'actu dessus, et puis on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas équipé pour ça, c'est-à-dire que on n'avait pas les moyens de faire les deux, plus exactement, à la fois d'alimenter un site internet avec les réactivités que ça implique, dont parlait Florian tout à l'heure, et assurer la fabrication du numéro papier. Donc, assez rapidement, on a laissé ça un peu traîner. Et puis, comme beaucoup de gens, au moment du Covid, on s'est dit que ce serait quand même bien de enfin lancer une version numérique. C'est un projet qu'on avait dans les cartons depuis très longtemps, mais qu'on ne faisait pas pour une raison assez simple, c'est que le modèle économique n'existait pas. C'est-à-dire que vendre du magazine en numérique, en PDF, etc., c'est très facile. C'est assez simple à faire, mais c'est difficilement rentable. En tout cas, ça l'était jusqu'à une certaine période. Et puis, avec le Covid, les gens ne pouvaient pas forcément sortir, il y avait des problèmes pour imprimer, pour sortir, pour alimenter les kiosques, etc. Là, on a tout simplement créé la version PDF Decred qu'on vend en ligne, également sur abonnement ou en mélangeant les deux. Et donc, le site internet Decred aujourd'hui, il sert essentiellement à ça, c'est-à-dire à annoncer les parutions et à vendre des abonnements, soit des numéros à l'unité, soit en version papier, soit en version numérique. Voilà.
D'accord. Et le prix du numéro en PDF, c'est combien par exemple?
Alors, en kiosque, il est à 6,90 € et en numérique, il est à 5 €. Donc, il est un petit peu moins cher parce qu'effectivement, on défalque une partie du coût de la distribution en kiosque, ce qui est normal, qu'on n'a pas à payer quand on diffuse en numérique.
Florian, est-ce que la presse sur le web s'en sort mieux que la presse papier côté Mac? Est-ce qu'il y a tout un écosystème de sites spécialisés autour d'Apple ou est-ce que c'est quelque chose qui se perd avec les années?
Mieux que le papier, je ne saurais pas trop dire. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'Apple. Pas tout le temps, mais tout le monde s'intéresse à ce que fait Apple. Beaucoup de sites sont. Je parlais tout à l'heure des sites Android. Les sites Android vont parler d'Apple parce qu'ils ont des produits qui sont en concurrence avec leur actualité. De même que nous, on va parler d'un Pixel, on va parler de Microsoft, etc. Donc le champ de. La couverture médiatique d'Apple s'est extraordinairement élargie. Après, on reste, nous, un site qui est ciblé sur ce qui parle que de ça constamment. Donc, on a un lectorat qui est fait de gens qui sont passionnés de la marque. C'est un site, Mac Génération va bientôt fêter ses 25 ans. Ça dit quelque chose de la résilience du site qui a su quand même rester, continuer, se maintenir. Et alors qu'il y a eu quand même pas mal de périodes compliquées. Il y a eu les bloqueurs de pub. Il y a eu cette variété de sites qui sont apparus. Il y a eu Apple qui est peut-être un peu moins accessible. On a ce que disait tout à l'heure Alexandre, on essaie de trouver des choses pour faire avancer pour rester là. On a fait des bouquins électroniques depuis des années. On a fait un principe d'abonnement qui est une chose qui est pas simple à faire parce que les gens ont cette gratuité. On se dit, moi je veux accéder à un site gratuitement. C'est pas évident de vendre de l'abonnement, donc ça implique des efforts au niveau du rédactionnel. Donc 25 ans, ça dit quand même quelque chose de ce site-là. Et c'est un site qui doit aussi mais de manière générale, la presse web doit aussi se battre contre d'autres formats, les formats vidéo. C'est tout bête, mais l'audience de YouTube a explosé. Et aujourd'hui, il y a des contenus qui sont proposés que depuis YouTube. Il y a des personnalités sur YouTube qui sont devenues un peu des célébrités via leur présentation de produits Apple. Donc, on lutte aussi un peu contre ces gens-là. Donc, c'est assez compliqué, mais on arrive à tenir. On est une équipe on a 6-7 journalistes, on a 3 développeurs web, on est tous salariés, on est en CDI. Donc il y a une structure qui est assez solide. Et finalement, on arrive à mener notre petit bonhomme de chemin. C'est pas simple, mais ça marche pas mal. Et on a un lectorat, entre autres parce qu'on a un lectorat qui est fidèle et qui est assez extra à ce titre. Parce qu'ils sont, ils sont là.
Ouais.
Il est là, plutôt.
Eh bien, merci à vous deux pour ce tour d'horizon. On rappelle qu'iCreate est en kiosque chaque mois, donc pour 6,90 € ou en version PDF pour 5 €. Alexandre, merci d'être venu, à bientôt.
Merci à tous les deux, et avec plaisir.
Merci Alex.
Florian, à la prochaine.
À bientôt.
Et nous, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bye bye.